Dans la sérénité de la ville italienne de Potenza, une disparition mystérieuse ébranle la communauté et captive l'attention de tout le pays. Le 12 septembre 1993, Elisa Claps, une adolescente de 16 ans, est aperçue pour la dernière fois aux abords de l'église de la Santa Trinita. C'est le début d'une quête incessante de vérité, où certains secrets demeurent enfouis, laissant planer un voile d'incertitude et de mystère sur cette affaire troublante. Je suis Juliette, et pour vous parler de cette affaire ce soir, je suis avec Cyrielle, Michael et Capucine.
Bonsoir.
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 C'est l'histoire du coiffeur italien. Nous sommes le dimanche 12 septembre 1993, et c'est jour de messe à Potenza. En Italie, où près de 80% de la population est catholique, la plupart des gens sont dehors, à arpenter les rues pour prendre part aux différents offices qui ont lieu dans les églises de la ville. Potenza est une ville tortueuse et pleine de recoins et ruelles, avec pas moins de 11 églises. C'est une matinée de fin d'été, et les températures se radoucissent dans le sud de l'Italie, qui connaît bien souvent des étés caniculaires. Potenza est la capitale de la région Basilicate, située dans le sud de l'Italie. Potenza est surnommée la ville verticale, en raison de sa structure urbaine particulière, avec le centre historique situé sur la colline la plus élevée et les quartiers environnants s'étendant à des altitudes progressivement inférieures. Avec plus de 800 mètres d'altitude, Potenza est la capitale régionale située à la plus haute altitude en Italie. Elle est également connue sous le nom de ville des 100 escaliers, en raison de son système d'escaliers, ancien et moderne, qui relie les différentes parties du centre-ville. Potenza possède le système d'escaliers mécaniques pour les transports en commun le plus étendu d'Europe et le deuxième au monde après celui de Tokyo. En 1993, la ville est peuplée de 65 000 habitants, c'est donc une ville de taille moyenne pour l'Italie. Elisa Claps a 16 ans. C'est une jeune fille aux cheveux foncés et au visage rond. Elle porte de petites lunettes. Elle est la fille d'Antonio, un buraliste, et de Filomena, qui travaille à temps partiel au service du cadastre de Potenza. Elle a deux frères aînés. Ermene Gildo, surnommé Gildo, étudiant en droit et âgé de 20 ans, et Luciano, qui va bientôt effectuer son service militaire, âgé de 24 ans. Elisa est étudiante en troisième année au lycée classique de Potenza et a pour ambition de décrocher un diplôme en médecine afin d'exercer la profession en Afrique au sein de l'association Médecins sans frontières. Peu après 11h ce matin-là, Elisa sort de chez elle avec son amie Eliana de Santis qui est passée la chercher à son domicile pour qu'elles aillent à la messe ensemble à l'église de la Santa Trinita. Elisa dit à Gildo qu'elles seront de retour pour 13h. Pour qu'ils partent rejoindre le reste de la famille pour déjeuner dans leur maison secondaire de Tito, à une trentaine de kilomètres de Potenza. À l'heure prévue, Elisa n'est toujours pas rentrée à la maison. Gildo s'inquiète, car ce n'est pas dans ses habitudes. Elisa est une jeune fille rangée, et elle est plutôt ponctuelle. Elle est très attachée à sa famille. Ce déjeuner dominical à Tito était prévu depuis de nombreuses semaines, et Elisa se réjouissait énormément car elle avait invité Eliana à se joindre à eux. Peu après 13h, Eliana sonne chez les Claps. Elle demande à Gildo si Elisa est déjà rentrée, car elle l'a perdue de vue et ne sait pas où elle est. Elle est surprise de ne pas trouver Elisa à la maison. Naturellement, son frère Gildo se lance alors à sa recherche. À l'époque, pas de téléphone portable ni d'internet. Il part alors dans les ruelles de Potenza, questionne les passants, les voisins, pour savoir si ils ont vu Elisa. Mais personne ne l'a vue. Les parents et le frère Luciano, inquiets de ne voir personne arriver à Tito, arrivent à Potenza sur les coups de 15h. Très vite, ils s'organisent. Les fils s'activent dans les recherches et les parents restent à la maison, attendant le retour d'Elisa ou alors un coup de téléphone de sa part. Eliana avoue rapidement qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Elle raconte qu'Elisa et elle sont effectivement allées à la messe, mais qu'après, Elisa avait rendez-vous avec un garçon. Ce rendez-vous ne devait durer que 10 minutes, et les deux filles devaient se retrouver aux cabines téléphoniques devant l'église, pour ensuite regagner le domicile des Claps et partir à Tito, avec Gildo. Mais Elisa n'est jamais revenue de l'église. Eliana indique que le garçon avec qui Elisa avait rendez-vous est Danilo Restivo, et qu'il avait donné rendez-vous à Elisa pour lui offrir un cadeau en félicitation à sa réussite à ses examens. Les frères Claps connaissent Danilo. Gildo l'appelle. Luciano, l'autre frère d'Elisa, se rend même à son domicile pour lui poser des questions et en savoir plus. Danilo lui raconte qu'il a bien rencontré sa sœur vers 11h30 à l'église de la Santa Trinita, et qu'à cette occasion, Elisa lui a confié qu'elle avait été importunée par un garçon. Luciano et Gildo se rendent aussi au commissariat de quartier. Les policiers conseillent à la famille paniquée de ne pas s'inquiéter, et les rassurent en disant qu'Elisa est une adolescente, et qu'elle est probablement simplement sortie avec des amis. C'est frustrant pour les Claps, qui savent qu'Elisa est une fille obéissante et bien élevée, qui ne resterait jamais dehors sans en informer quelqu'un de sa famille au préalable. D'autant plus compte tenu du fait que le déjeuner dominical avec Eliana était prévu de longue date, et qu'Elisa était très excitée à cette idée. Les frères demandent à la police d'interroger Danilo Restivo, mais leur demande est rejetée. Les agents suggèrent plutôt aux Claps de rentrer chez eux, et d'attendre qu'Elisa se manifeste. Ne pouvant attendre sans rien faire, Gildo retourne à l'église de la Santa Trinita. Il trouve la porte fermée à clé. Il trouve finalement quelqu'un qui a accès à la clé et qui le conduit à l'intérieur. Gildo observe les bancs vides, s'approche de l'autel, observe les recoins. Il remarque que la porte en bois donnant accès au niveau supérieur de l'église est verrouillée. Gildo demande à entrer, mais on l'informe que la seule personne qui a une clé de cette porte est le prêtre, le père Domenico Sabbia, connu sous le nom de Don Mimi. Or, Don Mimi est parti après la messe de l'après-midi pour se rendre en cure thermale pour les prochains jours. Cette nuit-là, Gildo, Luciano et leurs amis sont restés éveillés jusqu'aux premières heures du matin, parcourant les rues à pied et en voiture, cherchant désespérément tout signe d'Elisa. Pendant ce temps, les parents, Antonio et Filomena, sont restés près du téléphone, priant désespérément pour que leur fille les contacte. Le téléphone sonne sans arrêt avec des appels d'amis inquiets, de parents, d'habitants de la ville et de journalistes qui commencent à avoir vent de l'affaire. Mais il n'y a aucune nouvelle d'Elisa. À plusieurs reprises, en décrochant le téléphone, les parents n'entendent qu'un long silence lugubre. Le lendemain, le lundi 13 septembre, la police commence à prendre la disparition d'Elisa plus au sérieux. Elisa étant mineure, une enquête est vite ouverte. Elle est confiée au parquet de la République de Potenza, sous la responsabilité de la procureure Felicia Genovese. Très vite, les enquêteurs confirment que la personne rencontrée par Elisa ce matin-là est Danilo Restivo, un jeune homme de 21 ans. Voilà ce que Danilo raconte lors de son premier interrogatoire. Hier, le 12, vers 11h30 environ, devant l'entrée de l'église de la Santa Trinita, j'ai retrouvé Elisa Claps, une fille que je connais depuis environ 2 ans et avec qui j'entretiens des relations amicales sporadiques. Avec le frère de celle-ci, nommé Luciano, par contre, notre amitié remonte à une date antérieure. Je précise qu'avec Elisa, j'avais convenu du rendez-vous par téléphone dans l'après-midi du samedi 11, vers 18h-19h. Hier, vers 11h30-11h40, j'ai retrouvé Elisa dans l'église de la Santa Trinita, rue Pretoria. Le rendez-vous a duré environ un quart d'heure, car Elisa devait déjeuner à la campagne avec ses parents. Pendant cette rencontre, je lui ai demandé comment s'étaient passés ses examens de rattrapage, et elle m'a dit qu'elle avait réussi, avec des notes correctes. Ensuite, je lui ai fait part d'un problème de cœur concernant une amie qu'elle connaissait, nommée Paola, que je courtise mais qui m'avait dit qu'elle était intéressée par un autre garçon, Michel. Elisa, à propos de ce problème, m'a répondu qu'il valait mieux abandonner pour ne pas gâcher l'amitié qui s'était créée avec Paola. Je précise que pendant que nous discutions, Elisa semblait préoccupée. Plus tard, elle m'a parlé d'un garçon qui l'avait importuné le matin même, mais elle ne m'a pas donné le nom du garçon. À la fin, nous nous sommes dit au revoir vers 11h45. Elisa est partie et je suis restée dans l'église pour prier, pour l'examen que je devais passer ce matin à la faculté d'odontologie de Naples. Restivo raconte ensuite qu'il a quitté l'église vers midi et qu'il s'est rendu sur un chantier d'escaliers mécaniques en construction. À un moment donné, je suis tombée, me blessant à la main gauche, au bras et sur les côtes. Comme ma main saignait abondamment, je me suis immédiatement dirigée vers chez moi, en enveloppant la main blessée dans ma veste. Arrivée chez moi, j'ai croisé ma sœur Anna, avec son petit ami Mota Giovanni, à qui j'ai raconté ce qu'il s'était passé. Ils m'ont accompagnée aux urgences de l'hôpital San Carlo. Après les soins nécessaires, je suis rentrée chez moi, où j'ai trouvé mes parents inquiets de mon retard. Je leur ai expliqué ce qu'il m'était arrivé. Quelques heures après la disparition de Lisa, Restivo se présente en effet aux urgences de l'hôpital de la ville, avec des vêtements ensanglantés, pour se faire soigner une coupure de la main, racontant au médecin qu'il s'était blessé lors d'une chute accidentelle, sur le chantier près de l'église de la Santa Trinita, où des escalators étaient en construction. Les médecins affirment que la blessure semble cependant avoir été causée par une lame. Les vêtements que le jeune homme porte ce dimanche-là sont ensanglantés, mais ils ne sont pas saisis. En ville, pendant ce temps-là, on cherche Elisa et la famille de la jeune fille a déjà appris qu'elle avait rencontré Danilo. Vers 15h30 environ, dit Danilo, le frère aîné d'Elisa m'a appelé et m'a demandé si je l'avais vu. Je lui ai confirmé que je l'avais vu le matin à l'église de la Santa Trinita. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel d'une amie d'Elisa qui m'a demandé les mêmes choses que le frère. Entre-temps, j'ai entendu la sonnette de la porte sonner. Et après avoir raccroché avec la fille, j'ai répondu à la sonnette. C'était Luciano, le frère cadet d'Elisa, qui me demandait aussi des nouvelles d'Elisa, et en même temps me demandait de descendre dans la rue pour en discuter. Je suis immédiatement descendue, et je lui ai également dit que j'avais rencontré sa sœur vers 11h30, à l'église de la Santa Trinita, et qu'à cette occasion, cette dernière m'avait confié qu'elle avait été importunée par un garçon. J'ai dit au revoir à Luciano, et je suis rentrée chez moi. Ensuite, j'ai appelé plusieurs fois chez Elisa pour avoir de ses nouvelles, mais je n'ai pas réussi à savoir qui me répondait, c'est-à-dire si c'était la mère ou une de ses amies. Restivo part ensuite pour Naples, qui est située à environ 150 km et 2 heures de route, où le lendemain l'attend un examen universitaire. Vers 18h, ma mère m'a conduit à la gare de Potenza Inferiore, car je devais prendre le bus pour me rendre à Naples. À Naples, je suis arrivée vers 21h et j'ai passé la nuit chez un ami de la famille. Le lendemain matin, Restivo est à la faculté d'odontologie pour passer l'examen. Vers 14h, continue-t-il, j'ai repris le bus sur la Piazza Garibaldi et je suis rentrée à Potenza, où, au premier arrêt, précisément à Viale Marconi, ma mère m'attendait avec la voiture et m'a ramenée chez moi. Peu de temps après, accompagnée de mes parents, je me suis présentée dans ce bureau. Restivo donne ensuite d'autres détails sur l'affaire, et en réponse à une question des enquêteurs, admet « Je ne nie pas que j'étais amoureux d'Elisa, mais je n'étais pas aimé en retour par cette dernière, qui me repoussait en prétextant qu'elle était amoureuse d'un autre garçon de Palerme que je ne connais pas. Cela me dérangeait parce que j'étais déçu par le comportement d'Elisa, mais je me contentais de son amitié pour la voir. » À une autre question précise, Restivo répond « La rencontre que j'ai demandée et que nous avons eue dans l'église était uniquement et exclusivement pour lui souhaiter une bonne réussite et pour parler de Paola. Je n'avais pas prévu de lui offrir de cadeau pour l'occasion. »
La disparition d'Elisa est très vite médiatisée, jusqu'à devenir une obsession en Italie. Son visage est présent dans tous les journaux. Sans aucune trace de la jeune fille, plusieurs théories plus ou moins fantaisistes sont relayées par les médias. Comme dans la plupart des cas de disparition, elle est aperçue dans de nombreuses villes d'Italie, à Naples, à Rome, etc. Plusieurs témoins affirment aussi l'avoir vue dans une Fiat Uno de couleur blanche. Le 22 septembre, soit un peu plus de 10 jours après la disparition, un des amis d'Elisa, un Albanais du nom d'Eris Jega, est interrogé car plusieurs témoins affirment l'avoir vu auprès de l'église de la Santa Trinita le jour de la disparition. Eris affirme qu'il n'a jamais quitté son quartier et donne à la police les noms de ses amis pouvant attester de sa présence. Lorsque la police contacte ses amis, il conteste la version de Jega, confirmant qu'il était en fait dans le centre-ville près de l'église ce jour-là. Il s'avère aussi que ce Jega est propriétaire d'une Fiat Uno blanche. Lors de l'enquête et de la perquisition de la chambre d'Elisa, son journal intime est saisi. En l'étudiant, la police découvre qu'il y aurait eu dans ce journal des pages écrites en albanais et un témoin contacte la police en disant qu'elle a été aperçue en Albanie, ce qui renforce les soupçons sur Eris Jega. Le 22 décembre, il est même placé en détention car la police l'accuse de fausses déclarations. En décembre 1993, cela fait 3 mois qu'Elisa a disparu. Un appel téléphonique anonyme est reçu par la police émanant d'une femme affirmant avoir aperçu Elisa dans la capitale italienne, Rome, à 350 km au nord-ouest de Potenza. Selon le récit de la plante, Elisa est maltraitée et a été forcée à monter dans une Fiat Uno blanche. À la fin de cet appel poignant, la voix supplie « Aidez-la et aidez-moi ». L'enregistrement de l'appel est soumis à une analyse d'experts dont les résultats se révèlent surprenants. L'appelante est identifiée comme étant l'amie d'Elisa, Eliana de Silice. Depuis le début de l'enquête, les enquêteurs nourrissent une certaine méfiance à l'égard d'Eliana, ses récits présentant des incohérences. Un témoin déclare avoir vu Elisa en passagère sur le scooter d'Eliana près de la maison des Claps vers 12h30, le jour de sa disparition, décrivant même les vêtements des deux adolescentes. De plus, la mère du petit ami d'Eliana a alerté la police sur les agissements bizarres de Danilo Restivo. Les enquêteurs envisagent désormais la possibilité que cette plainte soit un subterfuge pour détourner l'attention d'Eliana, tout comme la fausse observation d'Elisa à Rome. Eliana est inculpée de faux témoignages et est convoquée devant le tribunal l'année suivante. L'affaire s'éternise pendant des mois, qui deviennent des années. Les poursuites à l'encontre d'Eris et d'Eliana ne donnent finalement rien et les deux sont innocentés. La famille Claps est convaincue qu'Elisa est probablement décédée et que Danilo Restivo est responsable de sa mort. Danilo est né en 1972 en Sicile. Il a ensuite vécu en Sardaigne, puis est arrivé à Potenza avec sa famille au début des années 80. Son père, Maurizio Restivo, dirige la Bibliothèque nationale de Potenza. Il est l'auteur de livres. Il peint et sculpte. Sa mère, Maria Rosa, est enseignante. Danilo a une sœur aînée, Anna, qui, en 1993, est en deuxième année de chimie à l'université. Leur famille fait partie de la bonne société de Potenza. Son grand-père, Franco Restivo, membre du parti politique de la démocratie chrétienne, a fait partie de l'Assemblée constituante en 1946 et a été 3 fois ministre. Danilo n'est pas quelqu'un de très rassurant. Il a une mauvaise réputation dans Potenza. Les enquêteurs découvrent que Restivo a l'habitude de harceler les filles dont il est amoureux, en passant des appels téléphoniques où il ne parle pas, mais où il diffuse la bande sonore du film d'horreur italien Profondo Rosso ou le morceau La lettre à Élise de Beethoven. Il a aussi harcelé 3 de ses voisines qui habitent en face de chez lui, en les appelant et en décrivant les tenues qu'elles portaient. Une autre habitude de Restivo est de couper en cachette des mèches de cheveux à de jeunes femmes avec une paire de ciseaux qu'il avait toujours sur lui. Il conserve et colle ensuite ces mèches dans un cahier en disant que ce sont les mèches de cheveux de ses copines. Cette fâcheuse habitude lui vaut même le surnom de coiffeur. Certaines amies d'Elisa déclarent que Restivo avait tenté de les courtiser sans succès, et qu'il est habituel pour le jeune homme de chercher à obtenir des rendez-vous avec les filles qu'il attirait en leur offrant de petits cadeaux, devenant ensuite agressif et violent lorsque celles-ci refusaient ses avances. Un autre fait marquant est bien qu'étant âgé de seulement 21 ans, Danilo Restivo est déjà défavorablement connu des forces de l'ordre. En 1986, alors âgé de 14 ans, il demande à Angelo, un de ses camarades d'école âgé de 12 ans, ainsi que sa cousine, de le suivre. Il leur bande les yeux et leur dit qu'il va leur faire découvrir une cachette dans un endroit secret. Il les emmène alors dans une pièce du séminaire située à 2 pas de chez lui. Là-bas, Danilo enfile un gant et, armé d'un petit couteau, frappe Angelo à la gorge. Il s'enfuit puis revient quelques minutes après, inquiet des conséquences de son acte. Danilo accompagne finalement Angelo chez lui et essaye de lui désinfecter sa plaie. Angelo regagne le domicile de sa grand-mère et un de ses oncles l'emmène finalement aux urgences, où il est soigné. Un rapport de la brigade mobile de Potenza stipule que le lendemain, le père d'Angelo signe une attestation dans laquelle il déclare avoir reçu 1 000 000 de lire en dédommagement des dommages moraux et matériels, empêchant toute poursuite judiciaire à l'encontre de Restivo. 1 000 000 de lire italiennes de l'époque équivalent à environ 1 000 € de 2024. Ce n'est pas une somme totalement négligeable. En 1998, Gildo crée un site internet pour rassembler des informations et des pistes concernant la disparition de sa sœur. Le 23 avril 1999, il reçoit un courrier électronique via ce site, prétendument de la part d'Elisa elle-même. Dans cet email, elle affirme avoir quitté Potenza de son plein gré et vivre en toute sécurité au Brésil. Elle présente des excuses pour la douleur causée à sa famille et assure qu'elle n'avait pas eu l'intention de leur nuire, mais qu'elle était malheureuse et qu'elle devait partir. Elle explique qu'elle n'avait pas l'intention de revenir chez elle et qu'elle a simplement décidé de prendre contact pour rassurer sa famille, ajoutant que ce serait la première et la dernière fois qu'elle le ferait. L'email se termine ainsi. C'est un salut et un adieu, pour toujours. Malgré le désir ardent de sa mère, Filomena, de croire en la véracité de ses mots, ses fils Gildo et Luciano restent sceptiques, sachant que leur jeune sœur était partie de la maison sans argent ni passeport. Ils font appel à un détective privé pour retracer l'adresse IP de l'email et découvrent qu'il n'avait jamais été envoyé du Brésil comme annoncé, mais d'un cybercafé à Potenza. La famille réussit à obtenir, auprès du café, une liste de tous les utilisateurs enregistrés qui s'étaient connectés à leurs ordinateurs ce jour-là. Et parmi eux, à l'heure précise de l'envoi de l'email, figure Danilo Restivo. Les CLAPS soupçonnent qu'il y a des forces supérieures en jeu qui protègent la réputation de Danilo Restivo. Son père, Maurizio, un homme influent à Potenza, a de solides liens avec l'élite sociale et les responsables de l'église, est suspecté d'avoir utilisé sa position de pouvoir pour protéger son fils et la réputation de sa famille. De plus, ils accusent le prêtre de l'église de la Santa Trinita, le père Don Mimi, d'entraver l'enquête. Don Mimi a refusé aux CLAPS l'accès pour fouiller les niveaux supérieurs de l'église et a refusé de leur permettre de placer une boîte dans l'église où les personnes ayant des informations pourraient laisser des notes anonymes, alors qu'une telle boîte était mise en place dans toutes les autres églises de la ville. De plus, dans le cadre de l'enquête, Don Mimi a nié connaître Danilo Restivo. Mais cette affirmation s'est rapidement révélée être un mensonge lorsqu'une photo des deux hommes côte à côte est découverte prise lors de la fête d'anniversaire des 18 ans de Restivo. En 2002, le frère d'Elisa, Gildo, crée l'association Pénélope, dans le but d'apporter un soutien à toutes les personnes qui sont confrontées à la disparition d'un proche ou d'un ami. C'est un mystère saisissant. Comment Elisa a-t-elle pu s'évaporer, en plein jour, au milieu de l'effervescence d'un dimanche? Au fil des années qui s'écoulent, le récit de sa disparition s'efface peu à peu, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'affaires. Pour la plupart des gens, la vie reprend son cours, mais pour la famille Claps, le temps semble suspendu, figé dans l'attente et l'incertitude.
Heather Barnett est née en août 1954 et a grandi à Sturminster Newton, une ville située dans le Dorset, dans le sud de l'Angleterre. En 2002, elle est âgée de 48 ans et habite toujours dans la même région, à Bournemouth, une ville d'environ 150 000 habitants au bord de la Manche. C'est une station balnéaire très populaire, connue pour ses grandes plages et son architecture victorienne. Sa famille et ses proches décrivent Heather comme une femme indépendante et une travailleuse acharnée, prête à aider ceux dans le besoin à tout moment. Elle mène une vie simple, voire modeste. Elle ne regarde pas beaucoup la télévision, affirmant ne pas vouloir gaspiller d'électricité. Heather a été en couple avec David Marsh, le père de ses enfants, jusqu'au début des années 1990. Ensemble, ils ont deux enfants, Terry, né en 1987, et Caitlin, née 4 ans plus tard. Connue également sous le nom de Bunny, Heather travaille depuis son appartement du rez-de-chaussée, située au 211 Capstone Road dans le quartier de Richmond Park. Elle est couturière. Dans l'appartement au-dessus, vivent son ex-belle-mère et sa grand-mère. Le matin du 12 novembre 2002, comme il pleut dehors et que ses enfants sont en retard pour l'école, Heather décide de les amener en voiture. Elle les dépose à l'école à 8h30, puis rentre chez elle, où l'attend sa journée de travail. De retour de l'école juste un peu avant 16h, la fille d'Heather, Caitlin, trouve la radio toujours allumée et la machine à coudre renversée. Elle cherche sa mère et l'appelle, mais personne ne lui répond. Comme Heather travaille toujours depuis chez elle, il est inhabituel qu'elle ne soit pas là. Caitlin cherche partout dans la maison, en terminant par la salle de bain. Elle frappe à la porte. Encore une fois, pas de réponse. Caitlin entre dans la salle de bain et y découvre sa mère, étendue sur le sol. En entendant les cris de sa sœur, Terry accourt et voit le corps de sa mère et du sang, absolument partout. Hystérique, les enfants courent hors de la maison, où ils tombent sur une voiture qui s'arrête en voyant leur agitation. Il s'agit de leur voisin. Il les emmène chez lui, de l'autre côté de la rue, en attendant l'arrivée de la police. Puis tente de les réconforter, et les aide à expliquer les événements à la police et aux urgences au téléphone. L'enquête est dirigée par l'inspecteur chef Phil James. D'après les premières constatations, la police conclut qu'Heather était probablement assise dans son espace de couture au moment de l'attaque. Son agresseur l'a frappée à la tête avec un objet ressemblant à un marteau, avant de la traîner dans la salle de bain, où il a mutilé son corps. Plusieurs coupures sont constatées. L'apparence des traces de sang et le fait que 4 appels téléphoniques reçus par Heather entre 10h56 et 16h16 n'ont pas été répondus amène le médecin légiste à situer l'heure de la mort aux alentours de 8h30. Les traces de sang sont essentiellement situées sur le sol, et il y a peu de projections. La police scientifique conclut qu'Heather était déjà assommée et tombée au sol quand elle a été blessée par une arme blanche, ce qui a provoqué les saignements. Le talon arrière gauche de sa chaussure est endommagé, ce qui suggère qu'elle a été traînée sur le sol. Son jean est défait et légèrement abaissé, mais aucune blessure ou lésion à ses organes génitaux n'est observée. Son soutien-gorge est coupé sur le devant. Dans chacune de ses mains se trouve une mèche de cheveux. Ses cheveux sont examinés au microscope, montrant qu'ils ont été coupés avec un instrument tranchant, car la coupe est nette. Une séquence d'ADN est obtenue, montrant que dans la main gauche, les cheveux sont ceux d'Heather Barnett, alors que ceux dans sa main droite ne le sont pas. Dès le début de l'enquête, la police pressent que le meurtrier est quelqu'un des environs et qu'il a un certain lien avec Heather ou ses enfants. En effet, personne n'a remarqué de personne louche ou inhabituelle dans le quartier ce matin-là. De plus, le meurtrier semble connaître les habitudes d'Heather car il l'a attaquée le matin à son retour de l'école, juste après qu'elle ait quitté ses enfants et se retrouve seule dans sa maison. Une autre constatation intéressante résulte de l'examen des empreintes de pas dans le sang qui se trouvait au domicile. Malgré une multitude d'indices de nature médico-légale, l'affaire déconcerte les enquêteurs. Le chef de l'enquête, le détective James, déclare que le meurtre est unique, de par sa complexité et sa difficulté à le comprendre. Il n'y a pas de mobile clair, le meurtrier a certes mutilé le corps, mais sans lui infliger de sévices sexuels. Les traces de sang vont des portes du patio jusqu'à la salle de bain. À partir de là, les traces deviennent de plus en plus petites, ce qui implique, selon les enquêteurs, que le meurtrier a changé de chaussures sur place. Des empreintes sur le linoléum de la maison sont enregistrées et placées au dossier. La police conclut à un meurtre prémédité. Le meurtrier a amené sa propre arme et il s'est changé sur place. La police constate que le meurtre a été planifié avec précision, le meurtrier étant particulièrement vigilant à ne pas laisser de preuves. Il est venu avec l'arme du crime et ne l'a pas laissée sur place. Il est avéré qu'il portait des gants en raison de plusieurs fibres sombres trouvées sur les lieux. Aucune empreinte digitale autre que celle de la famille n'est relevée. Le seul élément extérieur retrouvé est une serviette de toilette verte qui n'appartient pas à la famille Barnett. En plus des constatations d'ordre scientifique, la police interroge aussi les témoins et les voisins. Le lendemain du meurtre, Terry, le fils d'Heather, est interrogé. Il déclare qu'il a découvert le corps de sa mère avec sa sœur et explique que sa mère a changé les serrures de la maison une semaine avant sa mort, car sa clé avait disparu après la visite d'un homme prénommé Danny, qui était venu pour commander des rideaux. Les enquêteurs ne mettent pas de temps à identifier ce Danny. Il s'agit du voisin d'Heather. C'est lui qui a aidé les enfants à joindre la police et les urgences le jour du drame. Danny est un Italien de 30 ans, qui a déménagé en Angleterre en 2002 pour rejoindre Fiamma Marsango, une expatriée italienne de 13 ans son aînée, qu'il a rencontrée sur un site internet. Ils habitent ensemble dans la maison en face d'Heather. Son vrai nom est Danilo Restivo. Restivo devient rapidement un personnage central dans l'enquête sur le meurtre d'Heather. Dans les premiers jours de l'enquête, alors qu'il est simplement interrogé en tant que témoin, il fournit à la police un alibi très précis. Il affirme qu'il assistait à un cours d'informatique dans les locaux de l'association NACRO au moment du crime. Pour appuyer ses dires, il fournit lors de l'interrogatoire un billet de bus avec un horodatage de 8h44 du matin. À cela s'ajoutent d'autres éléments troublants. Le 17 novembre, soit 5 jours après le meurtre, la police se rend à l'adresse de Restivo pour prélever des échantillons d'ADN, dans le cadre du protocole habituel de saisie des ADN de l'entourage, afin de les éliminer de la liste de suspects potentiels. Un officier de police demande à Restivo quelles chaussures il portait le jour du meurtre. Restivo lui montre alors une paire de baskets Nike qu'il a laissé tremper dans la baignoire avec de l'eau de Javel. L'officier saisit les baskets et les place sous scellé. Le tournant de l'enquête a lieu en mai 2003, quand la police finalise l'examen de l'ordinateur d'Heather et découvre un email qu'elle a envoyé à une amie la semaine précédant son meurtre. Dans cet email, elle mentionne que ses clés de maison sont introuvables, soupçonnant qu'un voisin qui lui avait rendu visite pour se renseigner sur ses services de couturière l'avait prise par erreur. Heather raconte à son amie qu'elle a laissé un mot dans la boîte aux lettres de ce voisin en lui demandant de rendre ses clés. Ce voisin était bien évidemment Danilo Restivo. La police visite l'association NACRO, où Restivo affirme avoir pris un cours d'informatique le jour du crime. On découvre qu'il existe un registre que les étudiants doivent renseigner quand ils utilisent des disquettes. L'heure initiale à laquelle Restivo avait signé le registre le matin du meurtre était 10h28, mais cette erreur a été barrée et remplacée par 9h. La police soupçonne Restivo d'avoir corrigé le registre pour solidifier un alibi. Environ 6 mois après le début de l'enquête, l'un des détectives travaillant sur l'affaire effectue des recherches sur Internet. Il découvre que Restivo est lié à la disparition d'une jeune fille en Italie dans les années 90, Elisa Claps. Peu de temps après cette découverte, la police commence à approfondir les recherches au sujet de Restivo. Il est placé sous surveillance en utilisant des dispositifs d'écoute et de suivi électronique. Il est désormais considéré comme le suspect numéro 1 dans le meurtre d'Heather. Cette surveillance ne fait que renforcer les soupçons qui pèsent sur Danilo. Il apparaît comme un homme aux agissements étranges. Il est observé errant sans but, dans des parkings, pour observer et suivre des femmes. Il ne commet alors aucun délit, il est donc difficile de l'arrêter. Le 12 mai 2004, bien qu'il fasse chaud, Danilo Restivo est vu portant un pantalon imperméable et un sweat avec une capuche serrée autour de son visage. Une patrouille l'interpelle et le fouille, en prétextant des vols de voitures dans la région. Son véhicule est fouillé. Dans le coffre, la police trouve divers vestes et sacs poubelles, une paire de gants et une cagoule. Derrière le siège conducteur, un grand couteau et un paquet de mouchoirs dans un sac noir. Dans la porte conducteur, 2 paires de ciseaux. Cet attirail est plus que suspect. Danilo fournit des explications bancales. Il dit avoir trouvé le couteau en se promenant et qu'il l'a pris pour empêcher des enfants de s'en emparer. À cette époque, la police est tellement préoccupée par Restivo qu'elle utilise l'avertissement Haussmann. Un avertissement Haussmann est une notification d'une menace de mort ou d'un risque élevé de meurtre émis par la police britannique ou les autorités légales à une victime potentielle. Ces avertissements sont émis lorsqu'il existe des renseignements indiquant une menace pour la vie de quelqu'un, mais qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour justifier l'arrestation du présumé responsable. Les policiers en envoient à Fiamma, la femme de Restivo, aux amis de cette dernière, ainsi qu'aux étudiants étrangers que le couple héberge à l'époque. Parallèlement à ces investigations, Suite à un appel à témoignage au courant de l'été 2004, quatre femmes informent la police qu'elles ont été victimes de coupes de cheveux dans des bus à Bournemouth entre 2000 et 2004. Parmi elles, Holly Strode, étudiante, identifie Restivo comme l'homme qui lui avait coupé les cheveux en mars 2003 dans le bus. Une autre étudiante, Katie McGoldrick, identifie également Restivo comme l'homme qui lui avait coupé les cheveux entre 2002 et 2003. Ces témoignages ajoutent bien sûr à la suspicion autour de l'homme. Malheureusement, ces actes graves ne peuvent être considérés comme des preuves de l'implication de Danilo Restivo dans le meurtre d'Heather Barnett. Il est incroyable de constater comment il parvient à échapper aux mailles du filet malgré ses liens avec deux meurtres non élucidés ainsi que ses comportements étranges et inquiétants répétés envers les femmes. En juin 2004, Jill Doe, le frère d'Elisa, se rend à Bournemouth avec sa femme et une équipe de l'émission Chi l'ha visto, l'équivalent italien de Perdu de vue. Perdu de vue est une émission télévisée française d'appel à témoins qui était diffusée sur TF1 dans les années 90. Son objectif était de faire se retrouver des personnes s'étant perdues de vue, mais aussi de retrouver des personnes disparues. Jill Doe rencontre le détective James et l'équipe responsable de l'enquête sur le meurtre d'Heather. Il leur partage toutes les informations qu'il a sur Restivo, en leur expliquant qu'il est convaincu de son implication dans la disparition de sa sœur. L'équipe de journalistes accompagne Jill Doe et sa femme à l'adresse de Restivo qu'ils ont réussi à localiser. Jill Doe sonne à la porte et un étudiant qui réside chez Restivo lui ouvre, indiquant que Restivo est absent. Une voiture arrive et Jill Doe reconnaît immédiatement son occupant. Ce dernier se précipite vers l'arrière de la maison et s'y enferme. Jill Doe et Fiamma, la femme de Restivo, échangent des cris et des insultes, tandis que Restivo lui-même s'échappe à l'étage pour observer la situation depuis une fenêtre. Jill Doe est si furieux que l'équipe de l'émission est obligée de le retenir pour le calmer, la police ayant été appelée par des voisins. Est-ce une malédiction ? Toutes les pistes semblent converger vers Restivo, mais rien ne suffit à étayer sa culpabilité de manière concluante. En Angleterre, les enfants d'Heather doivent vivre avec le fait que le suspect numéro 1 du meurtre de leur mère demeure libre. Et en Italie, la famille Claps reste rongée par le fait de ne pas savoir ce qu'est devenue Elisa. Sans corps, le deuil est impossible. En 2006, malgré l'absence de pistes significatives dans l'affaire du meurtre de Barnett, la police collabore avec le Dr Stuart Black de l'université de Reading pour identifier la personne à qui appartenait la mèche de cheveux retrouvée dans la main de la victime. L'analyse révèle qu'elle appartenait à une personne vivant au Royaume-Uni, ayant voyagé à l'étranger deux fois, et modifié son régime alimentaire à deux reprises avant que ses cheveux ne soient coupés. Les enquêteurs ont découvert des détails sur ses voyages en Espagne et en France, ainsi qu'en Floride. Malgré un appel à la population, cette personne ne sera jamais identifiée. Le 12 novembre 2006, l'émission anglaise Crime Watch dédie un épisode au meurtre d'Heather Barnett. Le principe de cette émission est aussi de recueillir des témoignages sur des disparitions ou des crimes non élucidés. Plusieurs appels sont reçus par les équipes de l'émission. Et au total, 13 femmes témoignent auprès de la police avoir eu leurs cheveux coupés dans des bus aux alentours de Bournemouth, certaines d'entre elles identifiant formellement Restivo. En 2008, de nouvelles techniques scientifiques permettent l'examen de la serviette de toilette retrouvée sur la scène du crime. En plus de l'ADN d'Heather, un autre ADN est retrouvé. Cela a conduit à un profil mixte entre l'ADN de Barnett et une autre personne, Restivo. Ce dernier prétend avoir laissé la serviette lors de sa visite chez Heather le 6 novembre pour lui montrer la couleur des rideaux qu'il souhaitait commander. Ces preuves sont toujours jugées insuffisantes pour engager des poursuites. L'examen des chaussures, trouvées dans la baignoire chez Restivo, démontre qu'une personne avec du sang humide sur les pieds avait mis son pied dans les chaussures, confirmant l'hypothèse que le tueur avait changé de chaussure. Malheureusement, aucun profil ADN n'a pu être extrait de ces chaussures compte tenu du fait qu'elles étaient restées longtemps dans de l'eau de Javel. Toujours en 2008, en Italie, un épisode de l'émission Chi l'ha visto est dédié au meurtre d'Heather Barnett. Plusieurs femmes contactent l'émission et racontent avoir eu leurs cheveux coupés de façon inopinée, dans des contextes divers, souvent dans des bus à Potenza, Rome, Milan, Rimini et Turin. Une femme raconte qu'en 1994, alors qu'elle était au cinéma avec son fiancé de l'époque, Restivo, lui a coupé les cheveux. Elle déclare qu'à plusieurs reprises, alors qu'elle était assise sur son siège, elle sentait que ses cheveux étaient tirés par derrière. Elle s'est retournée elle remarquait un homme avec une veste sur les genoux et que sa main bougeait en dessous. Elle a déclaré que la personne responsable était sans aucun doute Restivo. Son fiancé lui avait demandé ce qu'il faisait sans recevoir de réponse. Le couple a ensuite changé de siège. Tous ces indices accablants ne semblent jamais suffisants pour conduire à l'arrestation de Restivo. Il semble presque qu'il faudrait se résoudre à ce qu'il commette un nouveau crime pour enfin être appréhendé. Plus de 16 ans après la disparition d'Elisa et 8 ans après le meurtre des heures, en 2010, Danilo Restivo est toujours libre. C'est alors que survient un événement inespéré.
À Potenza, le mystère sur Elisa persiste. Depuis près de 18 ans, la jeune fille a disparu sans laisser aucune trace. Comme dans de nombreuses affaires non élucidées, l'espoir se fragilise un peu plus à chaque jour qui passe. Le 17 mars 2010, des travaux doivent avoir lieu dans le clocher de l'église de la Santa Trinita à Potenza, car de l'eau s'y infiltre. Deux ouvriers montent les escaliers pour atteindre le haut de l'église. Là, derrière un amas de tuiles, avec l'aide de la lumière de leur téléphone portable, ils découvrent un corps momifié. La nouvelle plonge toute la ville dans l'agitation. Depuis toutes ces années, Potenza n'a cessé de vivre au rythme de l'affaire Elisa Claps. La municipalité a également toujours maintenu vivant le souvenir d'Elisa avec des affiches publiques à chaque anniversaire de sa disparition. Le frère de la jeune fille, Gildo Claps, est l'un des premiers à arriver sur les lieux, rejoint par sa mère. La messe du soir est annulée. Des dizaines de personnes se rassemblent devant l'église, sur la rue principale, via Pretoria, ainsi que de nombreux journalistes, photographes et caméramans. Gildo est aperçu sortant de l'église, apparemment bouleversé. Des photographies des objets retrouvés sur les lieux sont vite montrées à la mère d'Elisa, qui identifie un haut blanc qu'elle avait tricoté pour sa fille et qu'elle portait le jour de sa disparition, ainsi que ses lunettes, ses sandales et son collier. Les restes du corps d'Elisa sont extraits le lendemain, le 18 mars, transportés sur un brancard en zinc, recouvert d'un drap. Lorsque la dépouille est descendue du clocher, une petite foule rassemblée au dehors de l'église applaudit. Les restes du corps d'Elisa sont amenés à Matera, à côté de Potenza, pour y être autopsiés. L'analyse ADN dissipe tout doute sur l'identification et confirme qu'il s'agit du corps d'Elisa. La ceinture de son pantalon est remontée au-dessus de sa taille, la fermeture éclair baissée et son jean ouvert. Le soutien-gorge d'Elisa a été dégrafé et coupé entre les bonnets, et ses sous-vêtements ont également été coupés. L'autopsie pratiquée sur le corps d'Elisa démontre qu'elle a été poignardée dans le dos à 13 reprises par un assaillant droitier. L'autopsie révèle également qu'Elisa a subi une hémorragie, ce qui démontre qu'elle était encore en vie lorsqu'elle a été blessée par le couteau. Le fait que ses sous-vêtements soient déchirés et son jean baissé suggère que le meurtre avait un mobile sexuel, mais compte tenu du stade de décomposition du corps, cela ne peut être prouvé scientifiquement. Des mèches de cheveux coupées sont retrouvées près des os de la main. Des analyses révèlent qu'il s'agit des cheveux d'Elisa et qu'ils ont été coupés peu de temps après sa mort et déposés à côté de son corps. Ces éléments sont très similaires aux constatations faites dans le meurtre des heures. L'analyse d'un ADN masculin présent sur les vêtements d'Elisa est comparée à l'ADN de Danilo Restivo. Les deux ADN matchent. L'étude de la scène de crime démontre que des individus sont entrés dans le grenier au cours des années précédant la découverte du corps. En effet, on trouve dans le clocher des tickets de caisse et des bulletins de vote datant de 2008 et 2009, ainsi que des bouteilles de bière Peroni, un bout de câble électrique et un pinceau. L'expertise médico-légale précise que les restes d'Elisa ont été recouverts de tuiles et de débris bien après que le décès ait eu lieu. Le personnel de l'église est interrogé, car cela reste très surprenant que personne n'ait rien vu pendant ces 17 années. La police apprend ainsi que deux agents de nettoyage avaient déjà signalé la découverte d'un crâne lorsqu'ils nettoyaient le clocher. Cette information avait été transmise au prêtre, qui avait ensuite alerté l'évêque, Monseigneur Agostino Superbo. Lorsque cette information a été rendue publique dans la presse, tous ont tenté de se disculper. L'évêque a expliqué que le prêtre, qui était brésilien, avait des difficultés avec la langue italienne et qu'il lui avait dit qu'un Ukrainien avait été découvert dans le clocher, et non pas un crâne. Ces révélations ne font que raviver la colère de la famille Claps. Les lacunes manifestes de l'enquête, combinées à la complicité tacite du clergé, ont considérablement retardé la découverte du corps d'Elisa Claps. Pendant plus de 17 ans, sa famille a vécu dans l'ignorance totale du sort de la jeune fille, alors que son corps reposait à quelques centaines de mètres de leur appartement seulement, immobile depuis 1993. La famille Claps n'hésite pas à déclarer à la presse que si la police italienne avait agi de manière plus efficace sur les informations concernant le danger que représentait Restivo, peut-être que Heather Barnett n'aurait pas connu le même destin tragique. Le 19 mai 2010, avec une autorisation spéciale d'utiliser les nouveaux éléments de preuve issus de la réouverture du dossier du meurtre d'Elisa, y compris les similitudes entre les décès d'Elisa et de Heather, la police britannique perquisitionne le domicile de Restivo situé au 19 Chatsworth Road à Bournemouth. Il n'a jamais déménagé de cette maison qui fait face à celle d'Heather. Danilo Restivo est arrêté à 6h40 pour le meurtre de Barnett et emmené au commissariat de police pour interrogatoire. Le 20 mai, Restivo est inculpé du meurtre d'Heather. Il est placé en garde à vue avant de comparaître devant les magistrats de Bournemouth le 21 mai, où il plaide non coupable du meurtre d'Heather. Il est placé en détention provisoire. L'enquête a duré 9 ans et demi, au cours desquels la police anglaise a recueilli plus de 700 déclarations, 6200 pièces à conviction et 7300 documents, en faisant l'une des enquêtes les plus complexes jamais menées par la police du Dorset. Le procès pour le meurtre d'Heather s'ouvre le 11 novembre 2011 au tribunal de Winchester. Des journalistes anglais et italiens sont présents. Parmi les témoins appelés à la barre, plusieurs femmes qui s'étaient manifestées lors de l'appel à témoins de 2004 identifient formellement Restivo comme étant la personne qui leur a coupé une mèche de cheveux alors qu'elle se trouvait dans des bus les années précédentes. La singularité de cette affaire et de la personnalité de Restivo réside dans la coupe de cheveux. À ce sujet, Restivo déclare devant le tribunal qu'il avait commencé à couper les cheveux des jeunes femmes pour un pari lorsqu'il avait 15 ou 16 ans. Il nie tout caractère sexuel dans ses actions et affirme qu'après avoir coupé les cheveux pour des paris à 3 reprises, il avait commencé à aimer ça et ne voulait faire de mal à personne, aimant simplement la sensation des cheveux et leur odeur. Il déclare qu'après avoir coupé les cheveux, il les jetait dans la rue. Il déclare aussi au tribunal qu'il avait cherché de l'aide auprès de psychologues car il n'arrivait pas à arrêter de le faire. Restivo affirme que depuis son déménagement à Bournemouth, en mai 2002, il a coupé les cheveux de 6 filles en Angleterre. Il raconte qu'il ne réalisait pas que couper les cheveux de quelqu'un était un délit et qu'il s'excuse. Après une délibération qui ne dure que 5 heures, le jury déclare Restivo coupable et le condamne à perpétuité. Le 11 novembre 2011, alors qu'il était en prison au Royaume-Uni, le tribunal de Salerne, en Italie, déclare Restivo coupable du meurtre de Claps et le condamne à 30 ans de prison. Le procès s'est déroulé en l'absence de Restivo, en raison de la suspension des procédures d'extradition à son encontre, après qu'il a fait appel de sa condamnation pour le meurtre d'Heather. L'appel sera rejeté, mais son emprisonnement à perpétuité sera commué en une condamnation à 40 ans. En 2012. Le 5 mars 2024, la place devant l'église de la Santa Trinita à Potenza a été nommée Piazzetta Elisa Claps, en l'honneur de la jeune fille disparue en 1993. Cette décision a été prise à l'unanimité par le conseil municipal de Potenza. Danilo est aujourd'hui emprisonné, mais il demeure un personnage très complexe et énigmatique. Souvent décrit comme manipulateur et rusé, il a longtemps réussi à manipuler les situations et les individus à son avantage. Ses pulsions et ses rituels, notamment dans son obsession pour la coupe de cheveux des femmes, dénotent une perturbation psychologique plus profonde qui reste encore difficile à saisir. Le mystère autour de la complicité de l'Église qui aurait entravé l'enquête plane encore. En 2010, Giuliana Scarpetta, l'avocate de la famille Claps, écrit au pape Benoît XVI. Dans cette lettre, elle accuse l'Église de Potenza de défaillance et d'être restée silencieuse dans le cadre de l'affaire Elisa Claps. Elle demande à ce que l'enquête sur les prétendues dissimulations après la disparition d'Elisa se poursuive. Lors de la perquisition finale de son domicile en 2011, les enquêteurs avaient retrouvé une photo d'Erika Ansermin, enregistrée sur l'ordinateur de Restivo. Erika Ansermin est une Italienne d'origine coréenne qui a disparu le 20 avril 2003 dans la vallée d'Aoste. Elle était attendue pour le déjeuner de Pâques par son petit ami à Courmayeur, où elle n'est jamais arrivée. Sa voiture, une Fiat Panda, a été retrouvée à Avize, ville de la vallée d'Aoste. Ses traces se sont perdues dans le magasin Blockbuster de la ville de Saint-Christophe, où elle était allée pour rendre des DVD. Depuis ce moment-là, personne n'a jamais revu Erika Ansermin.
Bonsoir à tous. Donc comment j'ai découvert cette affaire? Parce que je pense que beaucoup de personnes vont se poser la question. C'est une affaire qui n'est pas très connue en France. Et je l'ai découvert donc tout simplement en fait en lisant deux livres de l'auteur Marie Neuser qui sont librement inspirés de cette affaire et que j'ai littéralement dévoré. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus sur cette affaire, je vous les conseille vivement. Donc il y a deux tomes. Donc le premier qui est inspiré de l'enquête sur Elisa, qui s'appelle « Prendre Gloria », et le deuxième qui est inspiré de l'enquête sur Heather Barnett et qui s'appelle « Prendre Lily ». Donc voilà, si vous voulez en apprendre plus sur les affaires, je vous les conseille. Et tout en sachant que ça reste des romans, hein, c'est pas des livres... documentaire, mais voilà, le fait qu'ils sont inspirés d'une affaire réelle, je trouve que ça les rend encore plus prenants. Et le livre, parce que je vais vous parler d'un autre livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et qui, je trouve, a des similitudes avec l'affaire qu'on a traitée ce soir. Ça s'appelle La Blonde en béton et c'est un roman de Michael Connelly, donc qui est un auteur américain qui est quand même assez connu. C'est un livre qui a été écrit en 1994 et dans lequel on retrouve Harry Bosch. Donc Harry Bosch, c'est le détective emblématique de Michael Connelly, donc qui est un détective de la police de Los Angeles et qui tue un homme en fait dans le cadre d'une arrestation, d'une enquête, qui est soupçonné d'être un tueur en série, le tueur en fait des blondes en béton, parce que c'est des femmes blondes qui sont retrouvées mortes dans Los Angeles et dont les corps sont coulés en fait dans du béton. Sauf qu'après avoir tué cet homme, il s'avère qu'il y a un autre meurtre, toujours voilà, d'une femme blonde coulée dans du béton, qui survient à Los Angeles et du coup remet en question l'enquête et qui oblige Harry Bosch à poursuivre son enquête pour trouver, on va dire, le coupable final. Sachant que dans le cadre de son enquête, il doit s'armer de beaucoup de patience et il y a beaucoup de personnes qui vont le chercher à l'entraver en fait dans son enquête pour protéger à eux leurs propres intérêts et ce même au détriment de la vérité, de la justice. Et j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes en fait dans l'affaire qu'on a traitée ce soir parce que déjà par l'aspect on va dire des rituels et de mise en scène macabre. Que ce soit dans l'affaire Danilo Restivo, mais aussi dans l'affaire des blondes en béton, et aussi par le côté persévérance dans l'enquête, être confrontée à des obstacles, à des personnes qui cherchent à se protéger plutôt qu'à aller dans le sens de l'enquête et de la découverte de la vérité. Et la question aujourd'hui que j'ai envie de vous poser, c'est dans le cadre de notre affaire, pour vous, qu'est-ce qui a le plus nui à la résolution en fait de cette affaire ? Est-ce que c'est le principe de la présomption d'innocence qui a été poussé à l'extrême, notamment dans l'affaire Heather Barnett ? Ou alors, est-ce à cause de personnes, notamment dans l'Église, qui étaient prêtes à tout pour protéger leurs intérêts ?
Déjà, merci beaucoup, Juliette, pour cette affaire que j'ai vraiment adorée. Ouais. Je trouve passionnante.
Merci, Juliette.
Merci.
Et très bien traitée. Donc, félicitations.
Super, je suis contente que ça vous ait plu.
Ouais, c'était chouette.
Oui, parce que c'est vrai que maintenant, comme on en fait beaucoup, c'est difficile quand même d'être toujours vachement surpris. Et je l'ai été.
Ouais, moi aussi.
Et moi clairement. Aussi.
Super. Mm-hmm.
Effectivement, en plus, il y a cette frustration de se dire, mais c'est quand même pas possible que ce type-là ait pas été arrêté plus tôt. D'où ta question, j'imagine. Bah, moi, j'ai envie de dire bêtement les deux. J'ai le droit ou pas ?
Bien sûr, tout est possible.
J'ai quand même plus...
encore heureux.
Non, j'ai quand même plus envie de dire plutôt côté UK, côté Angleterre, la présomption d'innocence poussée à l'extrême parce que. Bon, autant c'est un principe fondamental auquel je crois, autant là, c'est dommage qu'il n'ait pas été mis hors d'état de nuire d'une certaine manière, quoi. La couverture du clergé en Italie, on a un peu du mal à l'établir quand même. Ouais. Je ne sais pas si on a vraiment des preuves. C'est normal qu'il y ait des suspicions très fortes parce que le corps était dans l'église, qu'il y avait du passage, etc. C'est quand même très bizarre cette affaire, mais je pense que ce mystère-là, malheureusement... pourra pas être levé le père c'est quoi c'est Don Mimi étant décédé c'est un nom de mafieux
on aurait dû il semblait bizarre dès le début
de mafieux
mais je trouve qu'il y a un peu un côté mafieux dans l'église et le fait que ça se passe en Italie je trouve que ça renforce un peu ce côté-là, ce côté mystère, un peu mystique aussi.
Ouais, carrément.
Avec l'église et tout, je trouve que...
Après, il y avait
un aspect...
D'entrée de jeu, tu sais, quand le frère de la petite Elisa veut rentrer un petit peu partout dans l'église et qu'on lui dit non, là, cette porte, il n'y a que Don Mimi, justement.
Que Don Mimi.
Et que par la suite, quand forcément, ils poussent leurs investigations, elle a disparu aux abords de l'église. À peu près à l'heure de la messe, un peu avant, un peu après, on ne sait pas trop, et qu'au final, moi aussi ça me semble bizarre que personne n'est fouillé jusque-là en fait, et que son corps momifié a été retrouvé je ne sais combien d'années après quoi. Donc ça aussi c'est quand même bizarre quoi. Genre oui, vous pouvez fouiller l'église, mais cette porte-là, ça fait un peu Barbe Bleue et ses épouses quoi. Genre non, tu peux pas rentrer derrière cette porte comme ça.
Exactement,
Anna,
c'est vrai.
Et des années et des années après, finalement, elle a été là tout ce temps quoi. C'est tragique quoi. Enfin vraiment, je suis un peu comme Michael, d'un côté ou de l'autre, que ce soit la présomption d'innocence en Angleterre ou alors ce clergé qui, ils étaient en même temps Don Mimi qui était pote avec le père de. Enfin, c'est trop chelou quoi.
Est-ce que tu voudrais dire que le clergé a été de mèche, Cyril?
J'irai pas jusque-là, mais écoute, quand même, quoi. Enfin, je veux dire, au final, ça a été sur un laps de temps très très court qu'elle a disparu, cette pauvre gamine, quoi. Enfin, je veux dire, la messe, le temps qu'elle a pas eu le temps d'entrer chez elle, lui ensuite, il explique un truc déjà totalement, mais bancal, oui, je me suis pété la figure sur un chantier, enfin, qu'est-ce que tu faisais là déjà, enfin. Trop trop bizarre quoi. Et en fait, ça fait, comme disait Michael, ça a duré des années et des années. On n'avait jamais assez de choses contre lui et en même temps tout convergeait vers lui quoi. Donc ouais, c'est. Je pense qu'il y a eu un peu des deux quoi. Un peu trop de présence.
Sur le côté.
Pardon.
Vas-y.
C'est vrai que les coïncidences, ça arrive et il aurait pu en effet se couper sur des escaliers.
Mais oui.
Et puis peut-être, en effet, enfin, je veux dire, tout aurait été possible. Il aurait pu aussi prêter cette serviette à Heather, même si je trouve que ça, c'est extrêmement incriminant. Ouais, mais ouais. En fait, on ne peut pas inculper quelqu'un avec un faisceau d'indices qui pourrait être de l'ordre de la coïncidence, je trouve.
Mais ça ferait une énorme coïncidence
Mais c'est vrai que là
c'est vrai, Capucine, t'as raison dans le sens où c'est pas des preuves on va dire à 100% en fait, c'est des indices qui sont particulièrement troublants, mais il a fallu qu'il retrouve le corps d'Elisa pour pouvoir l'inculper en Angleterre, quoi. Donc
Bon, après, c'est moi, pour moi donc pour répondre à ta question, c'est clairement le clergé qui est responsable. Pour une raison qui est très surprenante, parce que là, il semble quand même y avoir plusieurs personnes incriminées dans le clergé. Et j'avoue que c'est un type qui n'est pas un prêtre, c'est ça. Encore que le clergé
ouais, mais après, en fait,
est un prêtre.
Mais c'est sa famille qui est puissante aussi. La famille de Danilo, elle est puissante parce que... Bah, son père, il travaille dans la bibliothèque universitaire. Et je pense que, encore plus à l'époque, il y avait peut-être une promiscuité entre l'église, le corps universitaire. Enfin, ça a rajouté, quoi, peut-être. Et son père qui était dans la politique... Enfin, non, son grand-père, pardon, qui avait été membre d'un parti politique.
Un ministre.
Et tout ça, on ne le sait pas. Ouais, on ne le sait pas. Enfin, c'est que des choses aussi qu'on... Mais il n'y a pas de choses à tester, c'est jamais attesté.
Mais est-ce que il y a eu, si ce n'est une enquête de police, en tout cas une espèce d'investigation, je ne sais pas, de la part de journalistes ou même de citoyens vis-à-vis du clergé? Est-ce qu'ils ont été inquiétés à un quelconque moment, quoi?
Non. Et en fait, ils n'ont pas été inquiétés. Ouais. Et l'avocate, bah, comme on le dit à la fin, elle a écrit une lettre au pape, mais elle n'a pas reçu de réponse.
Non, mais ça, c'est il y a un énorme problème avec l'Église, l'impunité de l'Église, et il y a plein de documentaires à ce sujet que vous pouvez voir, notamment des documentaires dont j'avais probablement parlé déjà sur Arte, qui sont passionnants, qui m'ont vachement remonté contre l'Église l'année dernière. J'ai eu une petite période d'extrême violence par rapport à tout ça, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai que il n'y a jamais de poursuite de police. Je pense qu'il y a trop de trucs qu'on ne sait pas, de machin sous le manteau. Mais le seul truc qui m'énerve dans cette histoire, c'est le machin sur crâne humain ukrainien. Je veux dire, même si en effet il n'avait pas compris crâne humain mais ukrainien, la réponse qu'il aurait donnée aurait dû être pas du tout approprié par rapport à la situation, et on a dû soulever d'autres questions.
Ouais, mais c'est comme si c'était un Ukrainien, c'était pas grave, quoi.
Et puis même si c'est pas grave, écoutez, donnez-lui un plat chaud et mettez-le dehors, ça marche pas pour un crâne. Essayez de lui trouver un refuge.
Ouais, c'est très bizarre.
Et puis ça veut dire aussi qu'il y avait pas l'église, il y a plusieurs personnes qui sont venues, c'est probablement pas que le prêtre, il y a peut-être eu des gens alors en effet dans mon petit village, je sais qu'il y a très peu de gens qui ont accès au clocher. J'y suis allée en Corrèze une fois, c'était merveilleux, mais je veux dire, il y a pas que des membres de l'église qui vont, il y a des gens de la ville pour l'entretien des cloches, ça s'entretient et tout, donc
bien sûr.
Je veux dire, je pense pas que ce soit le prêtre qui fasse lui-même son entretien des cloches, a fortiori dans une ville de cette taille. C'est toujours des vieilles.
Oui, qui sont toujours là, les grenouilles, comme on les appelle. Oui, non, effectivement, là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, Capucine.
Et moi, j'ai aussi envie de vous poser peut-être une autre question, c'est... sur le côté fétichisme, en fait, des cheveux comme ça, je trouve que c'est tellement particulier. J'ai fait un peu des recherches sur ce fétichisme. Bon, j'ai trouvé, lu des trucs, c'est un peu glauque. Mais en fait, je me suis posé la question, c'est est-ce que Est-ce qu'il faut se méfier, en fait, des gens qui ont ce genre de fétichisme? Parce qu'en fait, on a l'impression que ça ne peut que mener vers des comportements un peu ouais, graves, pas forcément peut-être répréhensibles, à aller jusqu'au viol ou au meurtre, mais c'est vraiment quelque chose de particulièrement complexe. Et je trouve que ça... Enfin, moi, dans cette affaire, c'est quelque chose qui m'a particulièrement... interpellé, et je trouve qu'on reste un petit peu sur notre fin à la fin. Donc bon, il s'explique dans le procès en disant que voilà, il a commencé à faire ça quand il était jeune et tout ça, mais ouais, il y a vraiment quelque chose de mystérieux, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, de toute façon, si son fétichisme le pousse à couper des cheveux de gens sans leur consentement, il y a déjà un problème avant même de commettre des meurtres.
Oui. Ouais, mais il a jamais été ça. Il a jamais été
poursuivi. Bah, justement, pour ça, c'est qu'à chaque fois qu'il se faisait entre guillemets choper, on disait bah il a juste coupé des cheveux, tu vois. Enfin, ouais, concrètement, Qu'est-ce que tu vas, enfin voilà, il va quoi, payer une amende? On peut pas le mettre en taule parce qu'il a coupé des cheveux, pas. Enfin, tu vois. Et à chaque fois, c'est
ouais,
un
et puis je pense que la police, elle était, tu vois, savait même pas comment réagir parce que c'était
tellement déconcertant. Rare. Bah oui, ça doit être tellement déconcertant. Genre,
ouais, moi, je l'ai déjà fait.
Quoi?
J'ai déjà coupé les cheveux d'une personne sans son consentement. C'était
c'est
une fille
vrai.
De ma classe. Ah bah. Je n'aimais pas.
Je n'aimais pas. Voilà.
J'ai coupé les cheveux.
Oui, mais si c'est en toute malveillance, si c'est dans une malveillance consciente, ça va.
Oui, c'est oui. Ça.
C'était pas du coup pour les finir après.
Ça va.
Elle soit énervée. Donc je pense que c'est pas du fétichisme.
C'était
parce que
pas
si
pour
j'avais
faire
pu
une...
faire
non,
mais
la question
dans le dos, je l'aurais fait.
Oula.
Tu vois, mais là, j'avais peur d'être exclue. Elle était vraiment méchante.
Oui.
Et Léonore, si tu nous écoutes,
salut. Salut. Non, mais la question est intéressante même aujourd'hui, parce que, enfin, je sais pas du coup, mais dans une société d'aujourd'hui, où on est peut-être plus à même de poser un diagnostic psychiatrique sur ce genre de trouble. Est-ce que ça mérite ne serait-ce qu'un internement psychiatrique, tu vois, un fétichisme comme celui-ci quand il n'y a pas de passage à l'acte?
Bah non, parce qu'après ça voudrait dire qu'il y aurait tous les fétichistes de pieds qui sont en prison.
Ouais, genre Georges Tron et ses copains.
Mais
oui, le truc c'est qu'on apprend...
Pardon.
Non, c'est... Non, comme disait Michael, on attend toujours un passage à l'acte en fait. Je dis juste, bon, ok, c'est juste, même si ça... Il faut toujours que ce soit corrélé avec plein de... Enfin, d'autres facteurs, et malheureusement, la plupart du temps, un passage à l'acte qui fait que, bon, bah, c'est souvent un peu tard, quoi. Mais, ouais.
Après, pour prévenir du passage à l'acte, moi, j'incite quand même tous les fétichistes qui nous écoutent à essayer, si possible, de se focaliser sur eux-mêmes. Moi, par exemple, je collectionne mes ongles morts depuis mes 12 ans et je ne nuis à personne, quoi. J'ai mes petits bocaux dans les placards et ouais. Voilà.
Bah écoute, tu vas peut-être te faire signaler, là, Michael. Hein. Je suis désolée, mais tu vois.
Si toutefois c'était vrai, ça m'intéresserait de les voir.
Moi, je
t'enverrai quelques photos
en privé, hein.
En MP.
Et n'hésitez pas d'ailleurs, tous les auditeurs, si vous voulez voir les fameuses photos, vous pouvez nous contacter. Michael se fera une joie de vous les envoyer.
Mais
en effet, pour
c'est aussi le but. Hein.
Ça fait, oui, ça fait partie.
Ça fait enfin un débouché pour cette activité.
Je suppose qu'on a, on a tous un peu des paraphilies à des niveaux plus ou moins. Problématique. Alors, un peu, j'ai dit,
non.
Un peu. Mais tu vois, par exemple, moi, j'aime...
Bon, Capucine, t'as une paraphilie problématique.
Vas-y.
Non, mais par exemple, moi, j'aime bien les... Comme ma maman, si tu nous écoutes, salut. Les becs de lièvre. Pour autant, est-ce que c'est une paraphilie? Je ne sais pas. Mais le fait est que c'est un truc un peu bizarre. Et ça ne fait de mal à personne. Je vais pas aller pour autant découper des mâchoires avec les becs de lièvre pour les garder dans des bocaux. Tu vois, il y a des salles différentes. Mais je trouve qu'à partir du moment où ta paraphilie s'exprime dans un geste sur l'autre qui n'est pas consentant quel qu'il soit, par exemple aller voler des baskets de tes voisines pour te tripoter dedans, Là, en effet, je recommande très vivement un suivi psychiatrique accompagné éventuellement d'un traitement sur le long terme.
Oui.
Voilà.
En effet. Mmh. Ben, merci. Ouais, merci pour ces recommandations.
Ouais, merci. Ouais.
Pas d'autres. Non, mais rien à nous avouer, Juliette. Michael nous a déjà dit les ongles de pied.
Non. Moi, rien du tout.
Moi non plus.
Et vous avez envie de les lire, les
Ah bah carrément, ouais. Ça donne très
bien. Bah maintenant, juste à la fin, non. Ouais. Mais par rapport à... J'ai une question par rapport au livre, c'est pourquoi les prénoms n'ont rien à voir? Parce que c'est... Elle change les prénoms. C'est inspiré, mais avec... Et puis pourquoi c'est toujours le même...
Ouais, c'est inspiré...
Parce que c'est moins facile à retrouver.
Ouais, en fait, je t'avoue que j'aime pas les titres. J'aime beaucoup ces romans, mais j'aime pas les titres.
Et tous les autres...
Prendre Olivier, je trouve... Ouais, ça s'appelle Prendre Gloria et Prendre Lily. Il y en a deux.
Mais elle a écrit d'autres
livres. Sur Elisa.
Prendre.
Elle a écrit d'autres romans, mais pas du tout sur ce sujet-là.
Après, ouais, mais c'est peut-être une mauvaise traduction parce que.
Non, c'est français. C'est écrit en français.
Ah, oui, pardon.
Bah, elle est française, l'auteur.
Ok. Donc, c'est vrai que c'est des titres bizarres.
Ouais. Ouais. Elle a choisi toute seule. Hein. C'est peut-être en auto-édition parce que c'est étonnant quand même.
Oui.
Non, c'est
pas qu'il y a le comité qui est plus. Non, mais il y a un comité qui a dit d'accord pour ce titre nul.
Les relecteurs de chez Pocket, faut se bouger là.
Faut
prendre du poil de la bête. Pardon. Allez.
En tout cas, c'était très bien cette affaire.
Ok, bah super. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne soirée à tous.
Merci à toi, Juliette.
Merci
à toi, Juliette. Merci beaucoup.
On remercie également
Evanol, Jérémon et Noémie Gounod. Waouh, mais attendez, à quand l'album?
C'est le générique des créateurs du générique.
Oui,
c'est ça.
Je le ferai maintenant tout
merci
à chaque fois.
Merci de répondre.
Fois. Oui, c'est ça.
Bon, eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas qui est responsable du prochain épisode.
C'est une.
Faut qu'on mette à jour le calendrier, j'ai regardé. Mais...
Ouais, très bonne question.
Bon, eh bien, c'est un
travail. C'est d'entrer en
suspense intégral.
Oui. Je crois que c'est.
Eh bien, à tout bientôt pour ce prochain.
Oui, je pense.
Ah, ouais, ok.
Bonsoir à tous.